Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. On reparlera du projet de suppression des contrôleurs à bord des trains de la ligne TER Mâcon-Lyon-Perrache-Valence. Une nouvelle journée de grève est prévue demain, jeudi. La coordination rurale appelle à manifester à lundi prochain, pointant la question des prix du carburant, en particulier du gasoil non routier. Les puces du canal viennent d'être placées en procédure de sauvegarde judiciaire, nous verrons pourquoi dans cette édition. Une nouvelle unité de CRS déployée en renfort dans l'agglomération. Une application pour rendre la ville plus accessible aux personnes autistes. Diversity, explication avec Noam Mouret dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le projet de suppression des contrôleurs à bord des trains de la ligne TER Mâcon-Lyon-Perrache-Valence avait déclenché la colère de cheminots le mois dernier. Le nouveau matériel régional, compatible équipement agent sol, permet, selon la SNCF, aux conducteurs du train d'assurer en autonomie et en toute sécurité les séquences d'embarquement et de départ du train. Mais pour les syndicats, les récents incidents sur le réseau régional ont mis en lumière toute la plus-value d'avoir des contrôleurs à bord des trains, des contrôleurs qui ont pu prendre en charge des usagers, les informer et être en appui du conducteur. Après deux journées de mobilisation, les 10 et 23 avril, la CGT, les fédérations Sudrail et CFDT appellent à une nouvelle journée de grève demain jeudi. Le mouvement s'élargit à tout le personnel TER. D'autres agents seront ainsi mobilisés, notamment contre la réduction d'effectifs au centre de maintenance de Vèze ou la suppression de postes d'agents en gare de Grenoble. Notez que les cheminots veulent aussi interpeller le conseil régional qui est l'autorité organisatrice des mobilités. Ils manifesteront donc demain à midi devant le siège de la région. La coordination rurale appelle à manifester lundi prochain, 11 mai, sur un axe allant du péage de Villefranche à celui de Roventin, Villefranche au nord, Roventin au sud de Lyon. Le syndicat pointe la question des prix du carburant, en particulier du gasoil non routier, ce qui a des conséquences pour les agriculteurs et les consommateurs. Les produits en magasin, viande, œufs, céréales, vont connaître une hausse des prix liée à la hausse des coûts de production, détaille la coordination rurale. Les puces du canal, deuxième plus grand marché aux puces de France, viennent d'être placées en procédure de sauvegarde judiciaire, une démarche préventive pour sécuriser l'activité et protéger les 900 emplois directement ou indirectement liés, selon le directeur Stéphane Blanchet. Il évoque un contrôle fiscal comme déclencheur de cette décision. Ce contrôle s'est soldé par une forte hausse de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. La procédure de sauvegarde ordonnée par le tribunal des activités économiques de Lyon devrait ainsi permettre de geler les créances de la structure et d'éviter d'aggraver les difficultés financières. Les puces du canal affichent une fréquentation d'environ 500 000 visiteurs par an sur un espace de 6 hectares avec pas moins de 200 marchands. Une nouvelle unité de CRS vient d'être déployée en renfort dans l'agglomération sur demande de la préfète Fabienne Bussiaux. Cette mesure fait suite aux dernières violences dans le quartier Bel Air à Villeurbanne. Le soir du 1er mai, des tirs avaient retenti dans une montée d'escalier et un corps calciné avait été retrouvé dans une voiture incendiée. Le syndicat de policiers Unité dénonçait le lendemain des scènes de guerre au pied des habitations, des règlements de compte à l'arme de guerre en pleine ville. Nous sommes sous-dimensionnés pour faire face à cette criminalité, faisait remarquer le syndicat. Sur demande de la préfète, le ministère a accordé une unité de CRS en renfort dans l'agglomération, en complément de deux déjà présentes dans l'agglomération lyonnaise en permanence et de la CRS 83. Notez que cette nouvelle unité est déjà pleinement opérationnelle, elle était présente dès hier et pour les jours à venir, ajoute la préfecture.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Une application qui souhaite rendre la ville plus accessible aux personnes autistes. Diversity permet de repérer des cafés, commerces, restaurants, coiffeurs ou salles de spectacle qui ont mis en place des aménagements simples. Le projet est porté par le centre d'excellence eMind du Vinatier. Un reportage signé Noam Mouret.
Sortir boire un verre, aller chez le coiffeur ou encore acheter une paire de chaussures. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont des gestes du quotidien. Mais pour une personne autiste, ces lieux peuvent parfois devenir une source d'angoisse. Caroline Demilly, enseignante à l'université Lyon 1 Claude Bernard, psychiatre spécialiste de l'autisme chez l'adulte, nous présente sa solution.
Alors Diversity est une application très simplement téléchargeable sur Android et iOS qui permet de repérer les lieux inclusifs qui ont développé des aménagements pour les personnes autistes.
Pourquoi avoir créé cette application ? Quel besoin remonter du terrain concrètement ?
Les besoins qui remontaient des terrains étaient un besoin tout simplement de vivre dans la cité pour les personnes autistes, qui avaient besoin de repérer des lieux qui s'adaptaient à leurs particularités pour aller boire un verre entre amis, pour aller au restaurant, pour aller chez le coiffeur ou s'acheter une paire de chaussures. Et l'application leur permet désormais de le faire.
Vous parlez de lieux inclusifs, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? C'est quoi être inclusif dans le cas de l'autisme?
Eh bien, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une condition qui s'accompagne de particularités dans la communication, dans les relations et au plan de la sensorialité. Et donc, grâce à une enquête menée par les personnes autistes, nous avons dégagé 6 domaines qui pouvaient leur poser des difficultés dans les lieux publics. Ces domaines sont l'accueil, la signalétique, la promiscuité entre les personnes, le bruit, les odeurs et la lumière. Et les lieux inclusifs ont développé des petites actions qui sont parfois très simples, mais qui permettent d'améliorer le quotidien des personnes dans ces 6 domaines. Notre étude va aussi évaluer parmi ces commerçants comment l'action de Diversity, au-delà de ce qui a pu être mis en place, déstigmatise aussi l'autisme et les troubles du neurodéveloppement parmi les commerçants. Parce qu'en fait, on a démarché certains commerçants qui n'avaient jamais entendu parler des troubles du neurodéveloppement et qui pourtant ont adhéré à l'idée, ont visualisé les capsules et ont développé des choses. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'au-delà du développement des lieux inclusifs, l'application, elle a aussi une vraie action de déstigmatisation des troubles du neurodéveloppement. Et ça, c'est un volet important qu'on est en train d'étudier au plan scientifique.
Près de 120 lieux ont déjà rejoint le dispositif, à Lyon principalement, mais c'est en train de s'exporter un peu partout en France. Comment vous expliquez que ça prenne une telle ampleur rapidement?
Eh bien, je pense qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'autisme dans les médias et dans la population générale. Avec l'évolution actuelle du monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de sens et qui ont envie de développer des projets généreux. Et je pense que Diversity, par sa simplicité aussi de mise en place, a séduit de nombreux lieux publics. Et nous avons eu le plaisir de voir que des lieux, par exemple à Paris, avaient d'eux-mêmes rejoint notre réseau, ce qui est une excellente nouvelle.
Et alors, c'est quel type de lieux? On sait qu'on trouve des cafés, des commerces, mais qu'est-ce qui domine plutôt la demande?
Alors, c'est très varié, et c'est ça qui est chouette aussi pour notre projet, parce que on a des lieux publics qui sont des magasins, on a des primeurs, on a effectivement des bars, des restaurants, des coiffeurs, des assureurs, des opticiens, des salles de spectacle. Donc, c'est quelque chose qui a pris parmi des lieux publics qui ont un objet très différent. Donc, ça a montré aussi qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là et un véritable élan.
Est-ce qu'il y a un objectif derrière de redonner de l'autonomie et de la confiance en ces personnes souvent renfermées un peu sur elles-mêmes peut-être?
Alors effectivement, comme vous le soulignez très justement, la question d'avoir conscience en soi, c'est très important pour pouvoir s'épanouir dans la cité, pour pouvoir être inclus comme chaque personne. Et le problème, c'est lorsque on se confronte à un lieu qui n'est pas du tout adapté à nos particularités, on peut effectivement être anxieux, ou se sentir mal ou peu en confiance et donc ne plus fréquenter ces lieux. Donc la question de l'inclusion des personnes était vraiment un sujet primordial pour le Centre d'Excellence iMind et nous a vraiment incité à développer ce projet.
Et quel rôle jouent les commerçants et les partenaires locaux dans la vie d'une personne autiste?
Eh bien, le même rôle que pour chacun d'entre nous en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne se pose pas vraiment la question des conditions dans lesquelles on va pouvoir se rendre dans un lieu public. On se dit qu'on va facilement aller s'acheter des chaussures, on va facilement aller chez le coiffeur, ou on va boire un verre entre amis. Et il faut bien se représenter que dans l'autisme, ça peut devenir un véritable challenge, voire parfois une souffrance, d'avoir à se confronter à ces lieux publics. Et on espère que grâce à Diversity, tout simplement, les personnes autistes pourront vivre comme chacun d'entre nous, normotypique.
Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux comme ça qui étaient déjà un peu prédestinés pour les autistes, où il faut vraiment de gros changements dans les lieux pour accueillir tout le monde?
Alors, justement, pas du tout. En général, ce sont des changements minimes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des changements qui rendent ces lieux plus accueillants pour d'autres populations. Par exemple, un lieu plus calme ou plus tamisé ou moins fréquenté à certaines heures peut être plus agréable pour les personnes âgées, par exemple. Peut être plus agréable aussi, on nous a fait la remarque à plusieurs reprises, pour les femmes enceintes qui cherchent des lieux calmes pour pouvoir se reposer. Et puis, tout simplement, ce sont des lieux qui peuvent être agréables pour chacun d'entre nous. Par exemple, ce bar que j'ai découvert grâce à Diversity, ben en fait, je le trouve super agréable pour moi aussi, même si un certain nombre de choses sont spécialement adaptées à l'autisme. Moi, je trouve que c'est super d'être dans un lieu qui est apaisé. C'est hyper précieux pour chacun d'entre nous, en fait.
Ça fait donc un mois que Diversity est disponible. Quel retour d'expérience vous avez de la part des utilisateurs ?
Eh bien, les utilisateurs sont très contents. Ça leur a permis de fréquenter des lieux qu'ils ne connaissaient pas et d'être plus enclins à sortir. Donc, on a des retours très, très positifs des utilisateurs avec une demande forte pour que ça se diffuse largement, que ça se diffuse dans tout Lyon, mais au-delà, dans toute la France et même internationalement. Et on espère que ça puisse effectivement séduire d'autres grandes villes ailleurs en Europe pour que ce principe inclusif soit désormais la norme un peu partout.
Parce que vous êtes spécialisé dans l'autisme, mais est-ce que ces lieux sont du coup aussi adaptés pour d'autres troubles neuroatypiques ?
Alors, tout à fait, parce que tous les troubles du neurodéveloppement partagent un certain nombre de caractéristiques, notamment les difficultés relationnelles, certaines difficultés sensorielles, une forme de continuum entre tous les troubles du neurodéveloppement. Donc effectivement, des dispositifs adaptés à l'autisme peuvent aussi profiter à des personnes qui ont un TDAH, par exemple, ou à des personnes qui ont des troubles du langage et de la coordination, ce qu'on appelait autrefois les troubles 10. Donc c'est vraiment un formidable élan en direction des troubles du neurodéveloppement en général.
Avec déjà plus d'une centaine de lieux engagés, Diversity montre qu'une ville plus inclusive ne passe pas forcément par de grands travaux, mais parfois par de petites attentions. Des aménagements pensés pour les personnes autistes, mais qui peuvent finalement rendre les lieux plus agréables pour tout le monde, et si l'expérience lyonnaise continue de s'étendre, elle pourrait bien faire école dans d'autres villes en France comme ailleurs.
Merci Noam. Patrick Moll avait dirigé l'OM Lyon durant 26 ans, de 96 à 2011. Originaire de Charleville-Mézières, il avait intégré l'ESC Lyon en 78. Il s'était ensuite spécialisé en marketing de la grande distribution et avait débuté sa carrière au sein d'Unilever avant de rejoindre le groupe Seb Aiculi sur le campus voisin de l'ESC Lyon. Il intervenait ponctuellement en marketing, puis il est nommé directeur général en 1996. Patrick Moll sera à l'origine du changement de nom en 97 du groupe ESC Lyon, qui se transformera en OM Lyon, École de Management de Lyon, puis en 2005 en OM Lyon Business School. L'école passe ainsi du statut de première ESC de province à celui de Business School européenne reconnue. Les proches de Patrick Moll annoncent son décès le 30 avril dernier, à l'âge de 68 ans. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.